7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ici en direct aujourd'hui sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie en ce mercredi 15 juillet. Alors, matinale un petit peu particulière, aujourd'hui elle ne durera qu'une heure. On sera cependant accompagné de nombreuses de plusieurs personnes qui sont évidemment de qualité, que vous connaissez pour certaines, à commencer par Grégoire Pupin, mais aussi Ludovine Delarochère et enfin le docteur Christian Passot. Voilà, et avec E3, nous allons parler donc de ce sujet de la loi euthanasie qui va être votée aujourd'hui dans un texte final à l'Assemblée nationale. C'est le dernier jour de ce texte qu'on a suivi pendant des mois et des mois durant toute l'année, toute la saison, même ici sur Ligne Droite. On vous dit donc quel est le programme. On va parler évidemment du combat pour la vie depuis des décennies. On va parler également des arguments qui sont employés pour défendre l'euthanasie. Et puis enfin, on parlera évidemment des dérives qui sont possibles avec ce texte. Voilà, merci beaucoup. Tout de suite, le grand entretien.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous commençons donc avec Ludovine Delarochère, présidente du syndicat de la famille, et Grégoire Pupin, que vous êtes juriste, essayiste, directeur de l'ECLJ. Merci d'être avec nous ici ce matin, tous deux. La première question que je voudrais vous poser aujourd'hui, donc, sera votée, je le disais, le texte sur la dernière version, quelque part, du texte sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Après des mois et des mois de combat, vous qui êtes engagé dans le combat pour la vie depuis des décennies, est-ce que c'est pas un peu difficile de voir une nouvelle défaite qui semble assez probable arriver aujourd'hui? Je commence par vous, Ludovine Delarochère.
Oui, c'est bien sûr extrêmement douloureux, mais c'est douloureux pour tous ceux qui vont être concernés d'emblée, c'est-à-dire les très nombreuses personnes qui seraient éligibles à l'aide à mourir, puisque les critères sont très flous, très vagues, très subjectifs. On va avoir d'emblée des centaines de milliers de personnes potentiellement concernées qui déjà se posent la question, et il y a eu beaucoup de témoignages. Et bien sûr, comme on est tous concernés un jour par la fin de vie, ça veut dire des générations de personnes qui subiront cette pression intérieure, cette pression implicite, terrible. Et ceci dit, en précisant que j'ai parlé de fin de vie, j'ai employé le terme de fin de vie, erreur de ma part, parce que c'est bien avant la fin de vie que des personnes pourraient être concernées par l'aide à mourir. Ça peut être le diagnostic d'une maladie grave et incurable, avec un début d'évolution, le refus de traitement, et la personne, l'intéressé, pourra demander, alors qu'elle est à des mois et des mois de son éventuelle fin de vie, qui pourra demander une aide à mourir. Et donc, c'est un changement de logique majeur, c'est un changement de paradigme sur le plan de la relation médecin-patient-médecin, sur le plan des relations humaines entre les patients et aussi leur entourage, leur famille, et un changement majeur sur le plan de l'attention aux plus vulnérables, qu'on ne cherchera pas plus à soulager jusqu'au bout, mais auquel la société signifiera qu'elle peut en finir et que peut-être finalement c'est pas plus mal, et pas plus mal y compris pour les finances publiques. Et bien entendu, sur un plan moral, c'est gravissime, c'est absolument gravissime. Cela étant dit, ça n'est pas encore fait chaque député, en tout cas en responsabilité, chaque député qui prend au sérieux sa fonction, j'espère, pour ceux qui se sont abstenus à tous les derniers votes, ou ceux qui ont été absents au dernier vote, j'espère qu'ils prennent bien en considération, sans se laisser influencer, et en conscience, et qu'ils mènent leur réflexion en conscience. Mmh.
Grégoire Pupin, vous de votre côté, justement, toujours cette question, c'est on va dire un énième combat sociétal qui est perdu par les conservateurs. Est-ce que il n'y a pas des raisons de désespérer à la fin?
Bon, bonjour, il n'est pas encore perdu, le vote n'est pas encore passé, il sera aujourd'hui. J'ai vu des informations sur des députés qui ont changé de vote, Je pense notamment à un député alsacien qui s'appelle Théo Bernhardt et qui disait publiquement là que qu'il a évolué, qu'il a réfléchi, qu'il a été attentif aux arguments, qu'il a été progressivement en fait alerté par l'attitude radicale des promoteurs de l'euthanasie. Et donc ça l'a amené. Donc il peut y avoir des changements ensuite, même si le texte est voté aujourd'hui, il y a encore des étapes, le Conseil constitutionnel, voilà bien sûr, d'autres peut-être encore juridictions. Donc voilà, donc le combat n'est pas terminé. Vous savez, la ré résister, je ne sais plus qui disait ça, donc résister, n'est-ce pas, c'est persévérer dans l'échec jusqu'à la victoire. Donc voilà, donc non, non, c'est pas du tout. C'est le combat de notre, enfin, c'est le combat de notre époque, de notre vie. C'est l'un des combats de notre époque, de notre vie. Avec Ludovine, on a la chance de pouvoir être engagé comme ça dans ces combats. Nous n'avons pas choisi notre époque. Nous menons ces combats. Nous les menons avec la foi en Dieu, la foi dans le Christ. Je pense que c'est là l'élément essentiel. Le reste ne nous appartient pas vraiment. Par contre, ce qui nous appartient, c'est de travailler avec sérieux, avec efficacité, d'analyser, de travailler, de dire les choses, d'être courageux. Et je pense que là, cette mobilisation a montré qu'il y a une capacité en France de travail, d'analyse, de courage, de prise de position. Vous savez, le combat sur l'euthanasie est vraiment ancien. Ça fait plus de 100 ans qu'il est porté dans la société occidentale par des mouvements eugénistes, des mouvements athées, hein, foncièrement athées, matérialistes, nietzschéens. Et c'est une même idéologie qui court tout au long du XXe siècle. Et donc le vote qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est l'une des étapes de ce grand combat historique mené contre en fait, le respect de la vie. Comme don de Dieu, et pour la maîtrise de la vie, maîtrise rationnelle, comme c'était dit avant l'émission, aussi bien avant la naissance que face à la maladie et au handicap. Donc voilà, donc c'est un long combat qui n'est jamais perdu, parce que dans le fond, moi je suis convaincu en fait que l'être humain ne peut pas se satisfaire, ne peut pas être heureux dans une société qui nous déshumanise. Donc même si on croit gagner là maintenant peut-être en liberté en disant on pourra enfin se suicider proprement, parce que c'est un peu ça l'idée quand même, en fait, dans la durée, avec l'expérience de ce genre de texte, et c'est ce qui se passe par exemple maintenant déjà au Canada, les peuples finissent par comprendre. Donc s'ils ne peuvent pas comprendre par l'intelligence, par les arguments, par la prudence, ils finissent par comprendre par l'expérience. Voilà. Et donc l'un des exemples, c'est qu'au Canada, ils repoussent sans cesse certains élargissements de la loi sur l'euthanasie parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. Il y a eu d'autres combats qu'a mené aussi Ludovine sur la GPA ou aussi l'expérience des souffrances, des injustices causées par ces pseudo-progrès, eh bien, ont amené le législateur et la société à changer de position. Donc voilà, donc le combat n'est jamais terminé et la confiance reste intacte parce que notre position est enracinée dans l'analyse, dans l'expérience humaine et aussi dans la prière.
Je reprends un petit peu ce que vient de dire Grégoire Pupin, que Ludovine de La Rochère. Il y a un côté où effectivement on voit que voilà, enfin, évidemment. Encore une fois, tout n'est pas absolument encore écrit dans le marbre pour aujourd'hui. Et d'un autre côté, peut-être que l'expérience pourra mener à d'autres conclusions à l'avenir. Cela étant, on voit qu'en France, on observe quelque chose, c'est que dès qu'une loi sociétale est prise, on ne revient jamais dessus. C'est peut-être même plutôt le contraire. Je pense à la constitutionnalisation de l'avortement qui avait eu lieu, il me semble, c'était il y a 2 ans. On peut aussi évoquer d'autres sujets. On a pensé, bien sûr, au PACS qui avait donné le mariage pour tous il y a une douzaine d'années maintenant et désormais qui a donné la PMA pour toutes qui est en train évidemment la question de la GPA se pose mais maintenant il y a la question de l'euthanasie qui arrive aussi. Qu'est-ce que vous dites en fait c'est un peu le sens de ma question originelle, à tous ceux qui eh bien, suivent vos combats, partagent vos combats, peut-être même donnent à Radio Courtoisie, donnent à vos institutions, instituts à vous deux justement pour vous soutenir et qui se rendent compte que eh bien, année après année, finalement les défaites sociétales s'enchaînent et que c'est le genre de sujet sur lesquels bah, personne ne propose de revenir dessus dans des candidats à la présidentielle, etc. Qu'est-ce que vous dites justement à tous ceux qui sont en train de peut-être de perdre espoir sur ce genre de combat ?
Alors d'abord, je dirais que l'effet cliqué, c'est un mythe créé par la gauche, un mythe complet et dans lequel, pour le moment, la droite, qui généralement, pas toujours, mais généralement vote plutôt contre les transgressions sociétales, la droite ne va pas jusqu'à avoir le courage de dire on va revenir en arrière, mmh. ou plutôt on va supprimer la régression qu'on a créée. La droite, pour le moment, se laisse impressionner sans réaliser du tout qu'elle est dans un piège. Je pense que pour l'euthanasie en particulier, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'effet cliqué. Alors, je vais prendre un exemple sur une mesure sociétale. En 2012-2013 a été légalisé le mariage et donc l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. Il faut savoir que quand il y a une abrogation, dans tous les domaines et quel que soit le sujet, hein, quand il y a une abrogation, l'abrogation d'une loi, ça n'est pas rétroactif. Mais un enfant qui a été adopté et qui vit dans un contexte familial X, Y ou Z, on imagine bien qu'on ne va pas désadopter. On pourrait arrêter, on pourrait mettre un terme à cette possibilité d'être adopté pour deux personnes de même sexe, mais on n'irait pas jusqu'à désadopter. Mmh. Mais disons qu'on est là dans un processus un peu plus compliqué. L'euthanasie, on pourrait décider, si jamais elle était légalisée, finalement, on pourrait tout à fait, et on pourra tout à fait décider qu'on arrête. Comme le disait très bien Grégor Pupink, il y a l'expérience et la compréhension petit à petit de ce qui est en cours, de ce qui se passe. L'histoire, elle est longue, elle ne va pas s'arrêter demain, après-demain et a priori pas non plus dans les années prochaines. L'histoire connaît des renversements, des bouleversements. Elle peut tout à fait changer de sens. Autrement dit, le fameux sens de l'histoire est là aussi un mythe complet. On pourra tout à fait, tôt ou tard, revenir là-dessus. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que ce sera rapide, mais je pense véritablement qu'il y aura des changements, des retournements. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous continuons à nous battre quoi qu'il arrive, parce que pour qu'il y ait un retour en arrière, ou plutôt... pour qu'on supprime ces régressions morales, ces transgressions, il faut forcément et nécessairement un travail des voix un travail intellectuel et il s'agit bien de montrer, expliquer toujours et encore, pointer du doigt, alerter sur tout ce qui se passe ou tout ce qui se passera. Si malheureusement la loi était votée, ce qui malheureusement risque d'être le cas, mais il y a encore bien des étapes, comme le disait Grégor Pupin.
C'est ce que j'allais dire. Grégor Pupin, que je reviens vers vous, vous parlez du Conseil constitutionnel. Là, dans le cas où aujourd'hui, ce qui semble malheureusement probable, que la loi euthanasie soit votée, quelles sont les voies de recours? Quelles sont les étapes? On a même lu le Premier ministre Sébastien Lecornu exprimer très très tardivement des réserves sur ce texte, dire que le Conseil constitutionnel serait saisi, il me semble. Quelles sont les prochaines étapes? Quelles sont les voies de recours? Est-ce que vous pouvez encore avoir une action légale quelque part pour freiner au moins l'application de ce texte?
Oui, bien sûr. Écoutez, le Conseil constitutionnel va être saisi d'au moins 3 saisines, celle du président, même 4 maintenant, celle du président d'abord par ordre hiérarchique, celle du Premier ministre, celle du président du Sénat, celle de 60 sénateurs et celle de 60 députés. Donc ça commence à faire beaucoup. Vous l'avez dit, Sébastien Lecornu a annoncé hier son intention de saisir le Conseil constitutionnel pour demander au Conseil de rééquilibrer le texte en répondant à, donc ça veut dire en fait en censurant hein, très clairement certaines dispositions du texte qui sont abusives, qui sont dangereuses. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que très clairement, le texte, tel qu'il a été adopté le 30 juin dernier par l'Assemblée nationale, il est vraiment déséquilibré, il est radical, il est dangereux, il contient des...
On va revenir dessus, effectivement.
Énorme, on en a parlé, donc là-dessus, c'est manifeste. Voilà, je pense que n'importe quel juriste vous dira que, honnête, vous dira que le texte est, voilà, a de grands problèmes. Par exemple, l'impossibilité de contester en justice la décision du médecin décidant de la mort de son proche. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, il y a des vrais problèmes dans ce texte. Les promoteurs d'euthanasie ont été radicaux, ils sont allés le plus loin possible. Et comme ils ont la majorité jusqu'à présent à l'Assemblée, rien ne les a arrêtés. Le Sénat a essayé de les arrêter, il n'y est pas parvenu. Voilà, donc oui, le Conseil va être saisi. Il va certainement censurer certaines dispositions de la loi, si elle est adoptée. Vous savez, le Conseil, ensuite, il y a quand même toute une problématique autour de sa composition, autour de son impartialité, son caractère politique. Voilà, donc là, il y aura aussi certainement des discussions approfondies sur le Conseil lui-même, sur sa composition. Donc voilà, donc on n'est pas du tout à la fin du débat. Ce que je pense, c'est que certaines dispositions, vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour défendre la liberté des établissements confessionnels face à l'euthanasie. J'ai espoir que le Conseil restaure cette liberté. Et c'est essentiel pourquoi ? Ce n'est pas un combat égoïste. C'est essentiel pour que dans la société française, il y ait encore au moins des îlots d'humanité, où l'humanité soit protégée, respectée. La christianisation de la France, la civilisation de la France, s'est faite par des îlots de chrétienté. Et en fait, il faut que ces îlots de chrétienté demeurent dans l'océan, malheureusement, hein, dans cette mer, cette société qui, elle, va être de plus en plus déshumanisée. Voilà, donc au moins que ces lieux puissent demeurer, que ces lieux de générosité, d'amour, de charité, de don de soi, puissent continuer à exister dans notre société. Et c'est ça, pour moi, un élément essentiel. Parce que si ces îlots d'humanité peuvent continuer, eh bien, c'est pas perdu. Voilà, ils pourront grandir, il y aura toujours cela, les Français verront que c'est possible d'avoir un soin d'accompagnement pour les personnes pauvres, les personnes malades, les personnes âgées, qui soit vraiment humain. Et voilà, donc ça, c'est essentiel. Donc oui, maintenant, c'est le Conseil. Donc ça veut dire quoi? Si le texte est voté aujourd'hui, les députés, sénateurs et autres saisissants auront environ 48 heures pour déposer leur saisine au Conseil constitutionnel. Et le Conseil, ensuite, devra régler les questions donc liées à sa composition et il devra statuer dans un délai d'un mois. Entre-temps, des associations comme le CLJ, peut-être d'autres aussi, ont la possibilité d'apporter une contribution volontaire. C'est-à-dire que le CLJ va remettre un dossier au Conseil constitutionnel. On va lui présenter les 27 points problématiques de la loi avec les arguments constitutionnels pour à l'appui d'une censure. Ensuite, il y a toute la partie qu'on prépare déjà de saisine de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'hypothèse où les établissements confessionnels seraient contraints d'accueillir la pratique de l'euthanasie. Et puis, il y aura à l'avenir aussi beaucoup de contentieux. Beaucoup de contentieux. Il y a déjà des cabinets d'avocats qui s'y préparent parce que lorsque vous avez un proche qui sera ou qui aura été euthanasié ou pris dans une procédure d'euthanasie, eh bien forcément, la famille va essayer de se battre. Et donc, il va y avoir énormément de contentieux. Ça va être compliqué parce que le législateur a anticipé en essayant de fermer les portes, les voies de recours. Donc voilà, malheureusement, l'avenir est plutôt devant les tribunaux.
Voilà, mais il existe cet avenir. Je profite simplement, Grigor Pupin, pour remercier aussi Ludovine de la Rochère d'avoir été avec nous ce matin. Je sais que vous devez y aller, je sais que vous devez aller répandre votre bonne parole effectivement aussi sur d'autres chaînes. Merci d'avoir été avec nous, Ludovine de la Rochère.
Merci, Alexandre.
Et écoutez, merci de nous avoir accompagnés aussi pendant toute cette année, parce que je rappelle que vous aviez pendant 6 mois tenu des chroniques donc chez nous, que vous pouvez retrouver, chers auditeurs, sur YouTube, que vous avez largement traité de ce sujet. Et j'invite bien évidemment les auditeurs à aller retrouver eh bien, vos interventions, votre travail sur le site du syndicat de la famille. Merci beaucoup, Ludovine de la Rochère. On vous libère. Voilà. Je rappelle également, j'en profite à nos auditeurs, eh bien, que Radio Courtoisie, c'est une radio qui est quand même libre, c'est une radio qui est quand même indépendante, c'est une radio qui vit grâce à vous, grâce à vos dons. Alors Arnaud, expliquez-nous un petit peu, eh bien, justement, comment on peut faire pendant cet été pour donner un petit coup de main à Radio Courtoisie.
Vincent, pendant cet été, eh bien, c'est comme tout au long de l'année, vous pouvez nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr, et puis également nous envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat. L'été est toujours une période un peu critique quand on parle de dons, donc on compte plus que jamais sur vous et on vous remercie d'avance évidemment.
Voilà, merci beaucoup à Arnaud, et tout de suite on va reprendre cet entretien, cette fois avec le docteur Christian Passot, toujours avec Grégor Pupinck.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ligne droite.
Nous retrouvons donc Grégor Pupin, que je vous rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoindraient, Grégor Pupin, que vous êtes juriste, essayiste, directeur de l'ECLJ, et nous retrouvons également eh bien, le docteur Christian Passot. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et membre du collectif pour le respect de la médecine. Dans la deuxième partie de cet entretien, moi ce que j'aimerais bien, c'est aussi qu'on fasse peut-être œuvre de pédagogie. On sait que eh bien, le sujet de l'euthanasie, c'est un sujet qui même, on va dire, s'est invité dans qui s'est invité dans les maisons, qui s'est invité dans les débats, dans les dîners de famille, qui s'est invité un petit peu aussi dans le quotidien des Français. Il a fini par émerger après un long temps de silence quelque part, et de nombreux arguments sont régulièrement avancés justement pour défendre l'euthanasie. Le premier, c'est que évidemment l'euthanasie c'est une liberté supplémentaire qu'on accorde, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas une incitation. Docteur Christian Passot, vous, qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui justement explique, voilà, on ne vous enlève aucun droit, on ne fait que vous en rajouter un, après tout, ça ne fait de mal à personne.
Oui, bonjour Monsieur Gazin. Eh bien, nous sommes dans une société, c'est une communauté de personnes, nous sommes solidaires les uns des autres. Et je pense que la liberté, enfin cette liberté demandée par certaines personnes, engage toute la communauté, en particulier la communauté médicale, mais toute la société en général, parce que sur le plan législatif, il y a des transformations, comme M. Pupin parlait également des procédures, des contentieux qui allaient survenir dans les suites de certaines procédures d'euthanasie. Mais médicalement parlant, ça engage le système médical dans son ensemble, un système médical des professionnels, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des pharmaciens, qui sont engagés dans cette voie pour venir en aide à des personnes souffrantes, vulnérables, et qui ont choisi cette voie dans le sens du respect de la vie. Et donc, on vient violer leur conscience. Alors, bien sûr, on met en avant la clause de conscience.
Oui, oui, parce que vous ne serez pas, aucun soignant ne sera forcé de pratiquer l'euthanasie.
Bien sûr, c'est ce qui est avancé actuellement, mais qui est quand même déjà, semble-t-il, remis en cause par certains promoteurs de la loi, qui, elle est à titre individuel, elle n'est pas à titre collectif, elle n'intéresse que personnellement chaque médecin et non pas les médecins dans leur ensemble. Elle n'intéresse pas les pharmaciens, elle ne concerne pas les pharmaciens, elle ne concerne pas les établissements et les directeurs d'établissement. Donc voilà, elle est partielle, elle est personnelle, et il y a une obligation, au moins dans le texte qui a été soumis, une obligation d'orienter la personne dans des délais assez courts vers un médecin qui accédera au désir, à la demande de la personne qui souhaite avoir recours à l'euthanasie, voilà, ou au suicide assisté. Donc voilà, moi personnellement, et je pense que beaucoup de personnes sont, beaucoup de médecins sont, nous avons, nous sommes rentrés dans cette profession, dans cette, oui, cette profession de médecin, avec l'idée de ne pas volontairement donner la mort. L'expression de donner la mort, c'est, disons, tuer volontairement les patients qui viennent se confier à nous. Mmh. Voilà. Et là, alors face à l'argument de « vous n'êtes pas obligé d'accéder à ma demande, mais orientez-moi vers quelqu'un qui accédera à cette demande », c'est une violence faite au médecin. Voilà, c'est une, ça vient violer son éthique. Mmh. Nous avons... Voilà.
Autre argument qui est souvent utilisé, Grégoire Pupin, alors là qui est même pour le coup peut-être un petit peu radical, c'est Raphaël Enthoven, donc grand promoteur sous l'éternel de la loi euthanasie, qui lui pour le coup va expliquer que d'abord tuer peut-être un soin, et évidemment l'image qui est souvent prise, c'est celle de... c'est une sorte de métaphore du soldat qui est à la guerre, qui est mortellement blessé, qui demande à son ami de l'achever, et son ami évidemment accepte pour ne pas le laisser dans un long temps de souffrance. Et à partir de ce moment-là, effectivement, bah voilà, c'est apaiser sa souffrance que de mettre fin à la vie de cette personne qui, de toute façon, est dans une situation mortelle. Encore une fois, ce que j'aimerais bien, c'est voilà, faire un petit peu œuvre de pédagogie. Qu'est-ce qu'on répond à cet argument-là si on nous le sort dans une discussion entre amis, en repas de famille, etc. Qu'est-ce que vous répondriez ?
Déjà, nous ne sommes pas sur un champ de bataille. Ça, c'est, je pense, un premier point. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les circonstances décrites. Hein. Les circonstances dans lesquelles nous sommes, c'est sont nos parents, sont nos proches, nos enfants, nous-mêmes, des personnes qui nous sont quotidiennement proches, qui vont être exposées. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est un système sanitaire hospitalier qui est en crise. Cette crise est elle-même le résultat d'une politique. Hein, c'est pas la fatalité. Le fait qu'on n'ait pas de moyens dans les hôpitaux, qu'on ne trouve pas de médecins en France, c'est le résultat d'une politique. Le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de lits de soins palliatifs, il manque plus de la moitié par rapport aux besoins aujourd'hui, c'est le résultat d'une politique, de décision politique. La population va vieillir. En France, on le sait, on ne prend pas les moyens pour anticiper, notamment sur les soins palliatifs. C'est aussi le résultat de choix, de décision politique. Ce n'est pas une fatalité. Donc, le système est mis en faillite d'avance.
Oui, mais...
Et face à ça, on prépare la sortie de l'euthanasie. Voilà. Donc, l'euthanasie aussi, sans regarder les discours sur la liberté qui sont, de mon point de vue, largement du vent, des écrans de fumée, la poudre aux yeux, il faut voir la situation réelle de la France. La situation réelle de la France, c'est la faillite du système de santé, qui va aller de pire en pire avec le vieillissement de la population française. Et donc, évidemment, que l'euthanasie vient contribuer à rationaliser la gestion du flux de la population française. Si vous prenez la population française considérée comme un flux, et c'est le cas, on considère le peuple comme une masse, avec des entrants, des sortants, des naissants, des immigrants, etc., une masse à gérer. Et l'euthanasie fait partie du processus de gestion de la masse. Au Canada, vous avez 10% des personnes qui meurent par euthanasie. C'est donc un phénomène majeur qui va aller en s'accroissant. Et c'est le résultat d'une conception rationaliste de l'homme et de la société. Et c'est totalement rationnel. Encore une fois, c'est totalement rationnel. Parce que si on considère
Mais pardon, Grégoire Pupac, mais l'argument que je vous ai donné à l'origine, c'était, enfin, l'exemple que je vous ai donné, c'était quelque chose de presque tout sauf rationnel, j'exagère, mais c'est encore une fois cette personne qui, tout simplement, est dans d'atroces souffrances, qui demande à ce qu'on l'aide à mettre fin à ses jours. Encore une fois, ce que Raphaël Enthoven, par esprit de provocation, peut-être appelle un soin. Mais dans le fond, voilà, dans ce cas justement qui est très personnel, qui ne concerne pas une masse, hein, mais qui est qu'individuel auquel on peut être confronté, qu'est-ce que vous répondez justement ?
On répond qu'on n'est pas sur un champ de bataille et qu'on a des qu'on devrait avoir des hôpitaux, qu'on devrait avoir des médecins capables de soigner, capables d'apaiser la souffrance. C'est tout à fait différent comme contexte. Et donc, les promoteurs de l'euthanasie ont toujours utilisé ce genre ce genre d'exemple, aussi l'exemple des chiens, en disant on va bien euthanasier les chiens, pourquoi pas les hommes ? Ben justement, nous ne sommes pas des chiens. C'est pour ça que ma réponse a été sur les moyens que la société met en œuvre pour aider. Or, ce que l'on fait, c'est que la société a choisi de ne pas engager les moyens pour apporter une réponse humaine à ces situations. Parce que ça coûte de l'argent et ça ne sert pas à grand-chose du point de vue purement rationnel, du point de vue économique. Voilà. Et donc c'est la situation dans laquelle on est. Effectivement, du point de vue purement économique, il est préférable que les gens meurent, soient tués assez rapidement après la fin de leur période de rentabilité, que ce soit en tant que consommateur ou plutôt en tant que producteur. En Allemagne, je reprends toujours les exemples allemands, le critère de l'euthanasie dans l'opération T4, c'était pas seulement le handicap ou la maladie, hein, c'était sont-ils capables de travailler.
Ouais.
Donc on demandait au directeur d'hospice de faire la liste des résidents qui ne sont plus capables de produire. Voilà, et c'était ça le critère d'euthanasie. Ceux qui coûtent cher, ceux qui coûtent sans rapporter, doivent être supprimés. Et on est toujours, je pense, dans la même logique. On va nous garantir quand même, autant que possible, une vie en bonne santé, tant qu'on est productif.
Ouais. Docteur Christian Passeau, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension qui est évidemment qui touche aux soins palliatifs, qui est que les Français savent probablement pas assez ce que sont les soins palliatifs. S'il n'y a pas eu un problème de pédagogie à ce niveau-là, est-ce que ces soins palliatifs ne sont pas vus à tort ou à raison, mais comme des mouroirs? Troisième point, finalement, est-ce que théoriquement la loi qui est en train de passer sur les soins palliatifs réglera pas aussi une bonne partie des problèmes qui sont justement liés à cette absence de soins palliatifs en France?
Alors, dans cette loi, il est prévu un volet de formation des professionnels, ce qui est une bonne chose, à condition de savoir comment on va les former et à quoi on va les former, parce que la loi soins palliatifs est quand même intimement liée au départ. Elle est quand même, il y a eu une scission, on a scindé un texte en deux, avec un volet soins palliatifs et un volet appelé aide à mourir, en fait euthanasie, suicide assisté. Et dans le volet, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mme Zidane, rapporteur du projet, de la proposition de loi sur les soins palliatifs. Elle voulait bien séparer les textes, elle n'était pas très, elle me semblait pas très à l'aise, parce que je lui dis mais dans la mesure où dans les maisons d'accompagnement qui sont prévues dans le projet, dans la proposition de loi qui a été adoptée, les maisons d'accompagnement sont des lieux de répit sont considérés comme des lieux de répit pour les personnes en soins palliatifs qui ne nécessiteraient pas des soins médicaux perfectionnés, qui devraient avoir recours, qui seraient dispensés en hôpital, mais et qui ne pourraient plus rester au moins temporairement à la maison. Donc ça permettrait un repos, un répit à la famille et un repos pour la personne. Mais dans ces maisons d'accompagnement, il est quand même prévu, dans le projet de loi euthanasie suicide assisté, il est prévu que la personne qui demande le recours à cette aide à mourir, on puisse y accéder quel que soit le lieu. Ça peut être le domicile, ça peut être les maisons d'accompagnement prochainement prévues, n'importe quel service hospitalier, les maisons de retraite. Donc, les soins palliatifs tels qu'ils sont conçus aujourd'hui sont quand même très liés à ce projet, cette proposition de loi euthanasie. Les promoteurs de l'euthanasie ont tenu à présenter cette euthanasie suicide assistée comme un soin. Donc, une alternative, ce n'est pas une alternative. Ce sont deux choses totalement opposées et totalement différentes. On ne peut pas les concilier. Pour revenir sur la liberté des gens, on promeut cette liberté de choix, mais c'est une idée qui va infuser dans la société, qui va même diffuser. Les gens la demanderont plus, sinon les plus grandes difficultés à avoir recours aux soins palliatifs pour des raisons de manque de personnel, de manque de formation, de manque de services, d'accueil. On fait effectivement comprendre qu'on ne peut pas les soigner comme ils devraient en soins palliatifs, et donc ils demanderont d'eux-mêmes de terminer leur vie, pousser les portes de la mort, voilà. Donc la liberté, elle est compromise pour les plus vulnérables parce qu'ils n'auront pas beaucoup de choix. Si vous n'avez pas les lieux d'accueil et le personnel adéquat pour les soigner jusqu'au bout de leur vie, parce que on parle de, les soins palliatifs sont souvent associé à l'idée de mort, de fin de vie, mais les soins palliatifs, ils peuvent intervenir bien avant ce stade de la santé défaillante de personne. Et donc, les soins palliatifs, on devrait y avoir recours bien avant. Moi, je pense que c'est très problématique. Et puis, effectivement, vous l'avez souligné déjà, mais j'y reviens, les soins palliatifs vont être alimentés par un budget d'un milliard sur 10 ans. Sur 10 ans, ça ne fait pas grand-chose. Et c'est très soumis au plan de financement de la sécurité sociale. C'est encore très hypothétique. Donc, on a une loi qui a été votée, on peut s'en féliciter, mais de là à l'application, c'est encore autre chose.
C'est ça, c'est-à-dire que quelque part, l'application de l'euthanasie est quand même beaucoup plus simple que la mise en place le développement des soins palliatifs dans tout le pays, ça c'est certain. Autre point, je reviens vers vous, Grigor Pupac, autre point qui est avancé, c'est que c'est dire que c'est un argument d'égalité et puis une loi d'égalité et puis de réalisme dans le sens où des euthanasies sont déjà pratiquées en Belgique, en Suisse par des Français. Quelque part, c'est simplement reconnaître quelque chose qui existe déjà, comme ça avait été le cas il y a environ un demi-siècle pour l'avortement. Autre point, c'est que alors qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont surtout des personnes riches qui peuvent se permettre d'être euthanasiées dans les pays frontaliers, désormais, ce sera possible pour tout le monde. C'est un autre argument qui est avancé justement par ces pro-euthanasie, qu'est-ce que vous répondez ?
Bon, je réponds que la France est normalement un pays souverain qui décide par lui-même de ce qu'il veut pour son avenir. C'est pas parce qu'une pratique la prostitution par exemple est légalisée en Allemagne, en Belgique, c'est pas une raison pour le faire en France. Donc très clairement, c'est pas un argument sur le fond. Que certaines personnes veuillent aller ou aillent à l'étranger pour mourir, c'est dommage, c'est navrant pour elles. La vraie question pour le législateur, c'est quelle société voulons-nous ? C'est toujours la difficulté de l'argument libéral individualiste. On vous fait passer, en fait, il consiste à faire passer des grandes réformes sociales, à transformer profondément la société, mais avec l'argument de la liberté individuelle.
Oui.
Et on perd la vision large, c'est-à-dire quelle société va résulter de ce choix. C'est comme l'avortement. On avait dit à l'époque la même chose, regardez, quelques femmes vont ailleurs pouvoir avorter, etc. Oui. L'avortement, de toute façon, est déjà pratiqué de façon clandestine, il faut donc légaliser, il faut encadrer, mettre des conditions. C'est exactement le même déroulé, le même scénario argumentatif. La réalité, c'est que l'addition de ces choix individuels a profondément changé la société. Dans notre rapport entre hommes et femmes, dans notre rapport à la vie, notre respect de la vie, notre respect du corps. Et donc, il y a eu une transformation. Ce que je tiens à dire, c'est que les théoriciens de l'avortement, qui sont les mêmes que les théoriciens de l'euthanasie.
Oui, d'ailleurs, hein, on voit encore une fois Raphaël Antoine qui dit, bon, bah, logiquement, si vous êtes contre l'euthanasie, vous devez être contre l'avortement, et comme vous n'avez pas le droit, c'est plus ou moins socialement impossible d'être contre l'avortement, bah, globalement, vous devez être pour l'euthanasie. Il y a une sorte
Là-dessus, il a parfaitement raison. Il y a une cohérence entre les deux. C'est le droit à disposer de son corps, comme il dit. Ça veut dire le droit à décider de la vie et de la mort, en fait. Hein. Et donc, oui, c'est un même combat. Tous les promoteurs de l'euthanasie sont au départ des eugénistes, je l'ai dit, pour qui l'eugénisme est mis en œuvre à la naissance, à l'entrée et à la sortie. À l'entrée dans l'existence, par le tri, la sélection à la naissance, l'eugénisme, l'avortement infanticide, etc. Et puis, par le tri, plus tard, ceux qui ont survécu, des personnes handicapées, des personnes malades, et donc là, c'est par le moyen de l'euthanasie. Donc, avortement, euthanasie sont les deux faces d'une même réalité, il a parfaitement raison, d'une même idéologie de contrôle volontaire de la vie, de désacralisation de la vie, de matérialisation de la vie, de gestion rationnelle de la vie, comme disait Pierre Simon. Donc, c'est une même idéologie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces gens-là ont d'abord développé l'idéologie de la rationalisation de la vie, de la désacralisation de la vie.
Oui, ça pour le coup, c'est même revendiqué dans le sens où ils expliquent que, bah oui, non, la vie n'est pas sacrée, qu'il y a des choses qui sont supérieures à la vie. Et en soi, sur ce dernier point, c'est un argument qui n'est pas inaudible non plus, dans le sens où effectivement, il y a des contextes dans lesquels on sacrifie sa vie, il y a des contextes dans lesquels on risque sa vie pour des choses qui sont différentes. L'être humain n'est pas un être qui est fait uniquement pour la conservation de sa propre existence, qui a des aspirations qui peuvent être supérieures.
Bien sûr. Sauf que là, voyez-vous, dans leur conception à eux, la vie, qu'ils appellent d'ailleurs c'est le livre de Pierre Simon de La vie avant toute chose, pour eux, la vie, ce n'est pas votre vie. Ce n'est pas la vie du docteur Passot. C'est la vie avec un grand V, ça veut dire le grand... Cette espèce de, pour eux, c'est une vie collective. C'est-à-dire c'est un fleuve. Un fleuve qui coule à travers le temps et qu'il faut endiguer, gérer, améliorer. Et donc, nous ne sommes chacun que des parcelles qui portent cette vie et nous sommes, comment dirais-je, nous n'avons de sens que dans le tout de ce grand mouvement qu'il faut amener à l'élévation, qu'il faut amener à un niveau plus élevé, plus haut d'évolution. Et pour cela, la transmission de la vie, la gestion de la vie doit être qualitative. Mmh. Et ça passe par la suppression. Et c'est la même pensée. Le discours libéral consistant à dire l'euthanasie est une liberté, c'est une invention des années 60-70. Mmh. Ces organisations, au départ, n'ont aucunement un discours libéral, de même sur l'avortement. Mmh. Simplement, au départ, c'est il faut imposer. Et l'euthanasie a été imposée dans les années 30, la stérilisation a été imposée encore longtemps après la guerre. Le passage au discours libéral est une invention américaine des années 70 qui est marketing. Mmh. Qui est marketing. Ça marche mieux de dire aux gens, vous vous rendez compte, vous avez maintenant la liberté de vous tuer. C'est extraordinaire. Mmh. Vous êtes vieux, vous êtes malade, vous pouvez vous tuer. Ça marche mieux quasiment que de le faire de force. C'est ça qui est extraordinaire. C'était pareil pour l'avortement. On voulait faire au départ l'avortement forcé, on l'a pratiqué. Il se dit, non, finalement, on va dire aux femmes que c'est leur grande victoire du XXe siècle. Mmh. Et elles y ont cru. Alors qu'en fait, c'est combien de malheurs et de souffrances, en réalité. Mais non, on leur dit, c'est votre grande victoire. Soyez-en fiers. Et c'est un discours marketing.
Docteur Christian Passot, je reviens vers vous. Vous êtes médecin généraliste, on le disait tout à l'heure. Vous avez forcément dû voir, et vous voyez peut-être forcément aussi aujourd'hui, des personnes qui sont vieilles, qui sont malades, qui sont dans un piètre état, pour être franc, même qui sont peut-être dépressives, on ne sait pas. Quelque part, vous avez forcément dû rencontrer des personnes qui effectivement voulaient arrêter de vivre. Dans ce que vous observez, c'est dû à quoi ? C'est-à-dire, est-ce que c'est dû à la solitude ? Est-ce que c'est dû au fait que ce sont des personnes qui sont dans des situations de vie en général qui sont triste? Est-ce que c'est dû au fait que voilà, c'est des personnes qui souffrent trop sur un plan purement physique? Dans le fond, qu'est-ce qui va motiver quelqu'un aujourd'hui à vouloir mettre fin à ses jours? C'est quand même ça reste du suicide, on le disait.
Eh bien, je pense que la solitude est une des raisons principales. La vieillesse, c'est un moment de l'existence qui n'est pas forcément facile à vivre. Effectivement, l'efficience, les capacités cognitives, les capacités physiques peuvent être très diminuées. Et la personne, si on ne lui donne pas, si on porte sur elle un regard et qu'on lui renvoie ce regard de personne inutile, très diminuée, ne servant plus à rien, qu'est-ce qui lui reste effectivement pour dire qu'est-ce que je fais encore de mes jours? Et je pense que c'est dans le regard des soignants, du plus proche de l'aide-soignante, les aides-soignants sont les plus proches, ceux qui fréquentent les personnes âgées quotidiennement et plusieurs fois par jour. C'est elles qui ont cette tâche-là d'être au plus proche du patient, et le regard, le toucher, la parole qu'elles apportent, qu'elles donnent, c'est très important. Ces personnes isolées, sans famille, sont dans la détresse. Effectivement, qu'est-ce qu'elles ont encore à vivre alors que plus personne ne s'intéresse à elles? Mais je pense que les soignants, justement, dans ces services-là, ont un rôle majeur, pas forcément dans le soin des médicaments, l'administration des médicaments, mais le contact, le soutien, une présence encore, et le respect de la personne, parce que ce sont des êtres humains, des êtres vivants, et non pas des mourants. Ce ne sont pas des gens ils ne sont pas morts, ils sont toujours vivants, quel que soit leur état. Et je pense que c'est le regard qu'on porte sur elles qui est le plus important. Parfois, il faut se le rappeler à soi-même, parce que on est... Bon, dans les EHPAD, on se rend bien compte que le personnel est... On manque de personnel, ils sont pressés par le temps, les soins sont chronométrés, c'est parfois difficile à vivre. Premièrement, par les soignants eux-mêmes, ils en souffrent. Ils voudraient passer plus de temps avec les personnes pour pouvoir leur apporter ce soutien. Nous autres médecins, quand on y passe, moi je passe moi-même, j'ai des patients dans 4 maisons de retraite différentes dans mon secteur. Et je fais des consultations, beaucoup moins de visites qu'avant. Nous sommes également pris par le temps, et nous devons, je pense, je dois me rappeler que même si on n'est pas dans le soin, la dispensation d'ordonnances avec des médicaments, des traitements, eh bien c'est une présence, un passage, une écoute. Et voilà. Les conforter dans l'idée qu'ils sont toujours vivants et qu'ils ont encore du prix à nos yeux. Oui. Et que, voilà, c'est ça le message le plus important, je pense.
C'est vrai que Grigor Pupac, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez justement sur la valeur qu'on accorde aux gens, et justement ce fait de ne pas leur attribuer uniquement des performances directes. Pardon, un autre point, c'est justement celui de la dignité. C'est le grand mot qui revient dans toute cette question, dans le sens où, effectivement, l'argument général, c'est pas de dire que tout le monde serait plus ou moins digne, parce que même les partisans de l'euthanasie expliquent que voilà, chaque être humain est digne pleinement, entièrement, de manière absolue. Cela étant, évidemment, il y a quand même une idée sur laquelle, bah, quand on serait impotent, quand on serait, je reprends certains mots, mais méconnaissable, quand on serait dans des situations qui rendraient la vie particulièrement difficile. Je pense notamment à cette personne qui a été, dont le nom m'échappe sur le moment, mais qui atteint de la maladie de Charcot et qui justement est à un stade vraiment avancé et qui, ça y est, veut en finir. Voilà, il veut partir de manière digne et donc pas, on va dire, pour parler de façon très crue, hein, mais en hurlant, en pleine agonie et justement de manière méconnaissable pour ses proches. C'est l'argument qui est quand même très largement ressorti et le terme central d'ailleurs de cette loi euthanasie.
Bien. Cette notion de dignité, bon, je pense qu'on n'est jamais méconnaissable pour ses proches. Hein, je me permets de corriger ce point-là. Quand on a des, voilà, on a une famille, des proches qu'on aime, voilà, je pense que la question essentielle, vous avez évoqué la solitude, elle est aussi là. C'est-à-dire le mode de vie dans lequel nous sommes. Pourquoi est-ce que... C'est sûr que tant que les Français... vivront, enfin auront des familles éclatées, et bien sûr le problème ne fera que s'accroître. C'est-à-dire, si les familles ne sont pas là pour prendre soin des enfants et des personnes âgées, et bien les enfants vont aller dans la violence et les personnes âgées vont aller dans le désespoir. Donc il y a la question du système de santé, l'état du système de santé et la question de l'état des familles, parce que c'est d'abord aux familles, aux enfants, de faire preuve de piétasse, comme on disait autrefois, de piété, c'est-à-dire de soin des anciens. Et donc, quelle réforme fait le gouvernement pour encourager les familles à prendre soin à la maison? Notamment, on pourrait penser au plan fiscal. Qu'est-ce qui est fait pour encourager la prise en charge affectueuse des anciens dans les familles? Donc ça, c'est un élément qui me paraît... essentiel, parce que les EHPAD, c'est quand même, c'est vrai, terrible, parce que les enfants sont pris par le travail, ils sont sous la pression du salariat, et puis les anciens...
Il faut rappeler, ça peut sembler bête, mais en fait, il y a un demi-siècle, les EHPAD n'existaient pour ainsi dire pas.
Mais voilà, exactement. Les anciens, peut-être qu'ils mouraient plus tôt, mais en tout cas, ils étaient accompagnés. Moi, je vis dans un village où il y a beaucoup d'anciens qui sont encore là, à 80 ans, dans leur maison, à cultiver leur petit jardin, à discuter entre voisins, à se rendre des services. C'est quand même toute une société. Et l'EHPAD, c'est quand même, de mon point de vue, un peu un signe d'échec de la solidarité naturelle qu'il doit y avoir dans une société. Donc la question, c'est politique familiale, politique de santé. Mais il ne faut pas oublier la politique familiale. Donc c'est un point essentiel. Sur la dignité, ensuite, oui, bon, ça c'est... C'est du vent, hein, ces discours. Pareil, la dignité, cher monsieur, on n'en parlait pas il y a 100 ans, ni d'ailleurs tellement dans l'Église catholique, hein, ni chez les matérialistes. C'est un concept qui a fortement été promu au XXe siècle, de part et d'autre, hein, des conceptions du monde. Chez les matérialistes, la dignité humaine, c'est précisément ce qui le distingue de l'animal, c'est sa capacité à faire preuve de volonté. C'est encore une fois la vision nietzschéenne, hein, du dépassement de soi, du contrôle. Et donc, effectivement, pour eux, le suicide est la forme la plus exaltée de la puissance individuelle. C'est-à-dire pouvoir mettre fin à sa propre vie, comme disent les fondateurs de l'ADMD, pouvoir se suicider seul, debout, face à un miroir, vous voyez, en pleine possession de ses moyens. Ça, pour eux, c'est la dignité. Par contre, dans la tradition
d'ailleurs, je précise, anti-Nietzsche au dernier degré, Nietzsche considérant que finalement le suicide était la destruction absolue de la volonté de puissance. Donc quelque part, même à la fin des fins, ça ne marche pas.
Mais il cite souvent la phrase, vous savez, quand on n'est plus capable de vivre, il faut mourir dignement. Enfin, ouais, c'est mourir. Bon, donc en tout cas, pour eux, c'est quand même une référence peut-être mal comprise. Donc il y a d'un côté cette conception de la dignité, c'est en fait de l'exaltation de la puissance individuelle, y compris dans le refus de la faiblesse et de la fragilité, la propre, la sienne et celle des autres. Donc c'est la même conception de la dignité qui va faire qu'on va tuer un enfant trisomique et qu'on va faire l'apologie de son propre suicide quand on est malade ou en fin de vie. Et puis ensuite, il y a l'autre conception, qui est la conception juive, qui est la conception chrétienne, qui est celle du soin, de la charité, de la fraternité. Ça veut dire être frère, se reconnaître frère, enfant d'un même créateur. Et là, c'est justement celle qui est portée par les soins palliatifs. Ça veut dire l'attention à l'autre jusqu'au bout. Et là, c'est la dignité de la charité, en fait. C'est-à-dire, c'est la dignité qui apparaît, comment dire, qui est honorée par la charité. Ça veut dire l'amour, le soin de l'autre. Et c'est en cela que l'autre, même défiguré, il a toute son humanité par le soin qu'on lui apporte. Et donc, par ces deux textes, euthanasie d'un côté, soin palliatif de l'autre, on a les deux conceptions de la dignité qui sont face à face. Le texte sur les soins palliatifs découle de la conception chrétienne de la dignité. Le texte sur le suicide et l'euthanasie découle de la conception athée et matérialiste de la dignité. Et ce qu'on voit, c'est que le texte sur les soins palliatifs a été adopté à l'unanimité. Mmh. Et donc la conception chrétienne de la dignité demeure acceptée par toute la société, tandis que l'autre conception, qui est antagoniste, hein, qui essaye de s'imposer maintenant, mais ce que je crains, c'est que les deux conceptions ne puissent pas coexister dans la société et que la conception déshumanisante progresse avec le désespoir. Avec le désespoir.
Et
la rationalisation de la société, le fait que nous soyons de plus en plus des numéros, que nous soyons de plus en plus anonymes, que la structure familiale soit détruite, tout cela conduit au désespoir, à la gestion des personnes de façon purement quantitative, par une gestion administrative, et que l'on entre dans ce processus davantage encore, jusqu'à la mort. De certaine manière, on peut dire que
et ce sera votre dernier mot.
Notre mort est encore une liberté parce qu'elle n'appartient à personne d'autre.
Merci.
On ne sait pas quand on va mourir.
Merci beaucoup, Grégoire Pupin. Et justement, et bien peut-être que la note d'espoir sur laquelle on terminera, c'est de se dire que on est actuellement sans doute à la croisée des chemins entre ces deux positions, et peut-être que et bien ce sera la nôtre qui triomphera à la fin des temps. Du moins, il faut agir et espérer pour l'atteindre. Merci à vous aussi, Christian Passot, d'avoir apporté votre œil de terrain, oui, votre œil pratique, justement, à cette discussion. On remercie à Ludovine de la Rochère qui nous a quitté il y a 30 minutes. Merci encore à vous, Grégoire Pupin, pour le combat que vous avez mené et pour celui que vous vous apprêtez à mener pour l'avenir. C'est la fin de ce direct. Merci de l'avoir suivi, chers auditeurs, et je vous dis à bientôt, et je vous laisse donc avec un entretien avec Alexandre Allégret-Pilot, député UDR, sur ce même sujet.